Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
En même temps, droite et gauche. Bonjour à tous et toutes. Le clivage droite-gauche apparaît comme structurant de la vie politique. Dans l'esprit des individus, même peu politisés, il renvoie à des différences d'idées et de valeurs très marquées. Il s'est naturalisé et il a été incorporé par les citoyens qui s'en réclament et calent leur comportement politique et social sur cette appartenance. Il est constamment utilisé et réactivé par les journalistes qui en font la grille de lecture de base de la vie politique française. Il faudrait ainsi nécessairement appartenir à l'un ou l'autre camp. On ne saurait être sans étiquette sauf pour déguiser sa véritable position. Ne dit-on pas dans les salons que si quelqu'un déclare n'être ni de droite ni de gauche, c'est qu'en fait il est de droite? On voit bien comment l'assignation dépend surtout de la position du locuteur. Pour un trotskiste, la droite commence quelque part à droite de Benoît Hamon. Et pour un militant du FN, la gauche commence à gauche de Laurent Wauquiez. C'est bien ce même clivage droite-gauche qui pèse sur l'affichage des partis. Les cadres du FN refusent d'être classés à l'extrême droite, car ils récusent le spectre gauche-droite. Le centre, lui, doit son nom à sa place médiane dans le clivage. Mais on oublie au passage pourquoi certains partis font justement le choix de n'être ni de droite ni de gauche. De Gaulle ne disait-il pas vouloir être au-dessus des partis, comme lors de sa campagne Emmanuel Macron qui voulait s'affranchir d'un clivage sclérosant idéologiquement et parvint à remporter la présidentielle. Mais il faut le rappeler, droite et gauche sont avant tout des labels, des manières de s'y retrouver dans le jeu politique, de poser des identités partisanes stables dans le temps, des grandes figures se revendiquant de tel ou tel camp. Droite et gauche ne renvoient pas nécessairement à des substances politiques figées et anhistoriques. Mon invité, Christophe Ledigol, montre d'ailleurs que ce clivage n'a pas toujours existé. Il s'éclipse à certaines époques, il n'existe pas nécessairement dans d'autres pays. Il est inutile pour qualifier d'autres partis et d'autres clivages, par exemple le clivage entre partis urbains et partis agrariens, partis religieux et partis laïques. Le clivage droite-gauche ne semble être là que pour maintenir intact, ou presque, le clivage fondateur de la Révolution, ou pour donner à voir un conflit binaire immémorial. Bonjour Christophe Ledigol.
Bonjour Emmanuel.
Christophe Ledigol, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nanterre, socio-historien des élections et des assemblées parlementaires. Il y a quelques années, vous aviez co-dirigé au PUF avec Jacques Le Boëc un ouvrage intitulé « Gauche-droite, genèse d'un clivage politique ». Vous avez poursuivi dans cette voie puisque vous sortez ce mois-ci un livre intitulé « Gauche-droite, la fin d'un clivage, sociologie d'une révolution symbolique » aux éditions Le Bord de l'eau. Alors Christophe Ledigol, pourquoi est-ce qu'on se réfère en permanence à ce clivage droite-gauche?
Peut-être parce qu'il est difficile de penser la politique indépendamment d'un clivage droite-gauche ou gauche-droite qui semble exister depuis que la République ou la démocratie existe, c'est-à-dire depuis 1789. Donc on peut le définir peut-être, c'est un principe de vision, de division du monde politique. C'est aussi en même temps un système de repères et d'orientation des citoyens, comme tu l'as dit à l'instant. Et puisque c'est un système d'orientation et de repères, il y a deux fonctions. Il existe deux fonctions à ce clivage. À la fois une fonction de description du champ politique, c'est-à-dire des positions occupées par les agents politiques. Et à côté de cette fonction de description, il existe une fonction d'analyse, d'explication des gestes, des paroles de ces hommes politiques. Et donc il semble exister de tout temps. Et pour les commentateurs comme pour les politistes, il serait difficile de parler de la politique sans évoquer à un moment ou à un autre la gauche, la droite et le clivage qui les oppose.
Donc on sait un système de repérage et en même temps c'est effectivement un système de, alors presque d'assignation, de classement, ces deux grandes catégories dans lesquelles on va rentrer les idées et donc on va dire telle idée, tel homme politique appartient à tel camp, tel clivage et comme ça on s'y repère, on positionne en permanence. On labellise.
Oui, en fait, ce sont des ces catégories ou ces labels n'existaient pas à gauche droite, on aurait affaire à une très grande variété de positions, de gestes, de paroles. Et il serait difficile finalement de regrouper ces gestes, ces paroles et ces alliances, puisque les hommes politiques font des alliances sous la forme de groupes, indépendamment des partis. Donc on a besoin de termes pour penser des camps. Et il y a existé dans l'histoire différentes terminologies pour signifier des oppositions. royalistes, républicains, les bleus, les blancs, les rouges. Et s'est imposé, à l'issue d'un processus historique long, l'idée qu'il y a un clivage cardinal, une summa divisio, entre donc deux grands camps, la droite et la gauche, un clivage naturellement qui s'est imposé surtout, on va dire, pendant la Ve République.
Alors on va y revenir, mais justement, puisque vous parlez de ce clivage qui a fini par s'imposer, racontez-nous un peu l'origine mythologique, ou j'espère historique, de ce clivage.
Alors je dirais que c'est à la fois historique et mythologique. Il y a une part de mythologie et il y a aussi une part d'histoire. Quand on parle du clivage gauche-droite, naturellement, on fait remonter ce clivage au temps des origines. Il lui faut une origine et il lui faut une histoire. L'origine, elle est datée presque, nous pensons. C'est finalement le débat sur le droit de veto en août 1789.
Le veto du roi.
Donc on est à l'Assemblée constituante. Les députés sont réunis, ils débattent. Et notamment, ils débattent finalement de la position que doit occuper le roi vis-à-vis de l'Assemblée, vis-à-vis des décrets de l'Assemblée. Le roi a-t-il le droit de s'opposer aux décrets de l'Assemblée, c'est-à-dire de refuser de signer les décrets de l'Assemblée ou pas? Naturellement, deux camps se distinguent. D'un côté, les partisans du roi, et de l'autre, ceux qui s'opposent au roi. Et les partisans du roi se rassemblent, se regroupent à la droite du président de l'Assemblée. Et c'est un peu l'origine, un peu mythologique, je dirais. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça ne s'est pas passé un jour. On donne souvent la date du 28 août 1789, mais c'est un processus qui s'est fabriqué au cours de l'été 1789, progressivement. Au début, les députés étaient mélangés dans la salle. Chacun se plaçait où il le souhaitait. Et donc, vous pouviez avoir des partisans du roi perdus au milieu de républicains, de jacobins ou autres. Et c'était horrible pour eux. Et donc, pour éviter justement de se retrouver seuls à voter en faveur de décisions royales, ils ont préféré tout simplement se regrouper entre eux. Et on se sent mieux entre soi.
Donc au départ, il y a quand même une espèce d'arbitraire spatial, une position dans l'Assemblée, mais...
Justement, c'est au départ, en 1789, ce n'est pas vraiment un clivage, en quelque sorte. Quand on parle de clivage, aujourd'hui, on parle d'un système de position et d'opposition au sein d'un espace autonome qu'on appelle le champ politique. À l'époque, c'est une stratégie de placement au sein d'une Assemblée. Et naturellement, on ne parle pas de gauche et de droite à l'époque, mais on parle du côté gauche et du côté droit. Est-ce vraiment un clivage ? On peut se poser la question, puisqu'on a affaire à des usages différents. Ce sont des adjectifs, gauche et droite, et ce ne sont pas des noms ou des substantifs. Mmh. Et donc, c'est un processus long qui finalement a transformé ce qu'on appelle le côté gauche et le côté droite, en gauche et droite. C'est un processus qu'on appelle d'essentialisation.
Ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est qu'on s'est beaucoup focalisé effectivement sur cette position spatiale gauche et droite, mais que ce qui se joue à partir du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe siècle, Christophe Ledigol, c'est ce qu'on appelle la collectivisation de la vie politique ou de l'activité politique, c'est-à-dire le fait de faire de la politique en groupe. Alors c'est ça en vrai la nouveauté peut-être plus importante que ce premier positionnement.
Tout à fait. Quand on évoque la Révolution française, on évoque une situation où la politique devient l'affaire de tous, on dit moins de presque tous, et non plus l'affaire d'un seul qui serait le roi et ses agents. Donc on a affaire à ce que vous appelez la collectivisation de la politique. On a affaire aussi à un autre phénomène, qui serait à partir du moment où la politique devient l'affaire de tous, naturellement, différentes opinions peuvent s'exprimer. Et donc il y a la possibilité d'avoir des divisions politiques, des oppositions politiques qui sont étalées sur la place publique ou au sein d'une assemblée. Donc c'est de la collectivisation, de la différenciation aussi politique par rapport à d'autres espaces, notamment l'espace économique ou d'autres espaces sociaux, et en même temps une autonomisation progressive des activités politiques, ce qui devient vraiment, qui se différencie clairement, où d'autres règles autonomes s'imposent par rapport à d'autres champs sociaux.
Jusqu'à ce que ça devienne même aujourd'hui une profession, on en parlera. Donc vous parliez d'essentialisation, Christophe Ledigol, c'est-à-dire que derrière les labels, ou ce que nous on appellerait les labels gauche-droite, on va commencer à mettre des choses, à substantialiser. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des valeurs, des idées, des mots?
Tout à fait. Alors, le processus de décentralisation renvoie en fait à plusieurs sous-processus. Comme je l'ai indiqué à l'instant, il y a d'abord substantification. La gauche et la droite deviennent des substantifs. Voilà. La gauche, la droite. Comme si c'était des sujets d'histoire. Et à côté, vous avez aussi un autre processus, c'est-à-dire on va doter cette gauche et cette droite de contenus idéologiques et des contenus idéologiques qui sont censés se transmettre de génération en génération. Voilà, donc on les dote de valeurs, d'idéologies, on les dote de héros, de lieux fondateurs, de lieux symboliques, de moments symboliques, historiques. Voilà, le congrès de Tours 1920, on pourrait multiplier, et ça constitue des traditions qui s'opposent à une autre tradition, une tradition de droite s'opposant à la tradition de gauche. C'est un processus très long, et à l'issue de ce processus, on a la conviction que finalement, la gauche et la droite ont toujours existé, que c'est un clivage permanent qui a toujours été tel quel, pratiquement de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, et que ce clivage également est universel. À partir du moment où on a un régime démocratique ou républicain, on assiste plus ou moins à l'émergence d'un clivage identique, parfois d'autres termes, dans des langues différentes, mais voilà, le clivage gauche-droite serait consubstantiel à la démocratie ou à la République. C'est, on va dire, je dirais, une vision substantialiste du clivage.
Alors, ce que vous montrez dans votre ouvrage, Christophe Le Digol, c'est que ce clivage, même en France, gauche-droite, n'a pas toujours existé. Il y a des moments où il est absent, éteint, ou en tout cas pas mobilisé, et il y a d'autres moments où il est beaucoup mobilisé. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot des moments où ce clivage a été moins important en France, ou peu développé, ou éclipsé ?
Tout à fait. Nous vivons sous la Ve République, ça n'aura échappé à personne, depuis 1958. Et dans le cadre de cette République, le clivage droite est très institué. Il y a un principe majoritaire, donc il faut faire 50% plus 1. Donc ça favorise l'émergence de deux camps bien clivés. Voilà. Sous la Ve République, si on remonte le temps, on se rend compte finalement que le clivage, c'était la proportionnelle, était moins important, moins durci que sous la Ve. Sous la troisième également. Mais il existait des époques où, précisément, on va dire, la politique comme activité collective s'est affaiblie. Et ce sont naturellement, sous le Second Empire, si on remonte un peu, sous le Second Empire, il n'y avait pas de clivage gauche-droite, parce qu'il n'y avait pas de liberté politique, il n'y avait pas d'expression publique de la politique, ou très limitée, dans le cadre de ce qu'on appelle des candidatures officielles étudiées par Christophe Voyot. On remonte un peu le temps. Seconde République, le clivage droite se déploie en fait à partir des élections de 1849. Mais en remontant un peu le temps, la Restauration, moi chez Juillet, c'est déjà plus compliqué. Et quand on, sous le Premier Empire, naturellement, on a du mal à avoir une vie politique publique, autonome. L'empereur, on va dire, appréciait peu. Et c'est une situation qui a commencé en fait d'affaiblissement de ce clivage, voire de disparition de ce clivage, à partir de 1795, à partir du moment où cette opposition étant une stratégie de placement, on a commencé à attribuer des places au tribunal, si je me souviens bien, si je me trompe, en 1795, à partir d'un tirage au sort. Dans ce cas-là, il n'y a plus possibilité de se regrouper au sein de l'Assemblée. Voilà, donc on a affaire à un clivage qui, parfois, se déploie dans certaines périodes, parce que la politique comme activité collective est autorisée, qu'il y a de la différenciation politique, des partis politiques, et à d'autres moments, quand la politique collective s'affaisse, qu'ils ne sont plus autorisés, et bien spontanément, naturellement, le clivage s'affaisse ou disparaît.
Ça dépend donc quand même en partie de la forme du régime, du degré de liberté démocratique ou du degré d'expression et du mode de scrutin. Parce que vous disiez par exemple, sous la 4e, ou en tout cas dans les régimes où il y a un scrutin proportionnel, c'est moins important de se revendiquer d'un bloc ou de se revendiquer ce clivage-là, voilà, parce qu'on peut faire des alliances.
On peut faire des alliances et on va dire que ce sont des alliances un peu changeantes, mouvantes. Voilà, la Ve République a vraiment institué un clivage puisqu'il fallait naturellement éviter l'instabilité politique. Et donc on a fabriqué, quand on dit « on », c'est-à-dire les pères fondateurs de la Constitution de la Ve, ont fabriqué un monopole, voire un duopole politique. Et donc il fallait le stabiliser, d'où le scrutin majoritaire.
Et alors, ce clivage politique, Christophe Le Digol, il pèse aussi, il finit par s'imposer aux politiques eux-mêmes, il finit par peser comme une contrainte qui va, par exemple, limiter les marges de manœuvre d'un parti, un parti qui voudrait peut-être adopter telle ou telle position, telle ou telle idée, et qui va se dire, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Est-ce que ça pèse comme une contrainte sur les partis ?
Alors, c'est une contrainte, je dirais, symbolique, hein, puisque naturellement, plus le clivage gauche-droite s'objective, apparaît comme une tradition, plus naturellement la fidélité à la tradition devient une contrainte pour ceux qui se revendiquent soit de gauche, soit de droite. Donc il y a, cette tradition autorise certaines politiques et on va dire, ça, elle pose des obstacles à des politiques qui, on va dire, s'éloigneraient un peu de cette tradition telle qu'elle est perçue par à la fois les hommes politiques, mais aussi par les électeurs. Même si on a vu ces dernières années, depuis notamment le tour de la rigueur 82-83, que, par exemple, la gauche pouvait s'éloigner de manière assez libre d'une tradition dont elle s'inspirait.
Économique. Très bien, on va écouter une interview de Pierre Bourdieu. C'est daté de 1999, ça avait été filmé à l'époque par Pierre Carle et mis en ligne par la chaîne Zaléa TV.
En sociologie, j'ai cherché à me dire qu'est-ce qu'il faut, si on demande aux gens, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche ? On ne saisit rien. Mmh. Il faut trouver des indices plus subtils. Par exemple, il y avait un sociologue qui s'appelle Lipset, un sociologue américain, qui disait qu'il n'y a pas de corrélation entre l'origine sociale et les opinions politiques des étudiants. Moi, je disais, c'est que c'est mal mesuré. Si on prend des indices subtils des opinions politiques, pas seulement je suis de droite ou de gauche, mais la manière d'être de droite ou de gauche, la façon de... aussitôt la corrélation se rétablit. Alors il y a eu des enquêtes qui le montrent très bien. Si vous dites Hollande est de gauche, voyez comment elle s'appelle, la femme de Hollande.
Ségolène Royal.
Bon, mais là, moi je ne savais pas. Hein. Vous voyez, Ségolène Royal, pour moi, instantanément, on sait qu'elle n'est pas de gauche. Mmh. Bon. Rémi Lenoir, qui est un de mes élèves, a été professeur à l'École nationale d'administration, et il m'a dit, elle était à l'école à l'ENA, elle s'est posé la question. Est-ce que je suis de droite ou de gauche? En termes de plan de carrière, quoi. Mmh. Elle a choisi la gauche parce qu'à l'époque, elle a très bien choisi. Mmh. Et si elle avait choisi la droite, elle ne serait pas ministre. Voilà. Donc ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais bon, alors, beaucoup de gens le savent. Elle a, moi, ce que j'appelle un habitus, elle a une manière d'être, une manière de parler, une manière de... Bon, qui vous dit, elle est de droite. Même si elle tient des propos de gauche. Mmh.
Mais il a fallu quand même qu'elle se convainque qu'elle était de gauche pour pouvoir être un peu performante. Si elle était purement cynique, c'est que de l'ambition, de la carrière et tout, elle pourrait être aussi...
Justement, actuellement, la définition officielle de la gauche et de la droite est tellement floue, officielle, je dis bien, que l'effort n'est pas si grand. Ouais. Vous avez un cours de Sciences Po, ça vous mène aussi bien à droite qu'à gauche.
La valeur de l'homme, en même temps droite et gauche, nous sommes en compagnie de Christophe Ledigol. Alors, Christophe Ledigol, que fait Pierre Bourdieu dans cet extrait? Il va dénoncer un affichage politique factice ou il va reconduire à sa manière l'idée qu'on peut incorporer, incarner la droite et la gauche?
Je changerai un peu ta question, si tu me le permets. En fait, ce qui est intéressant c'est de prendre Bourdieu comme objet. Dans ce passage, en fait, il montre différents rapports au clivage gauche-droite. Notamment, il oppose la déclaration de Ségolène Royal, c'est-à-dire « je suis de gauche », à, on va dire, un jugement qui repose sur l'observation de faits qui lui semblent, disons, objectifs. Une manière d'être, une manière de parler, un habitus. Et donc, il oppose la déclaration de Ségolène Royal à un jugement extérieur à celle-ci, qui repose sur d'autres observations, l'idée que être de gauche, eh bien, ça suppose tel discours, telle manière d'être, etc. Et qu'il conteste en quelque sorte l'affichage et le déclaration de truc vis-à-vis par rapport à son comportement. Alors un habitus qui serait plutôt de droite, semble-t-il, selon Pierre Bourdieu. Je ne me prononce pas sur la réalité de ces déclarations. Autre moment intéressant, autre aspect intéressant de sa déclaration, c'est que naturellement, il oppose également, on va dire, une conception du clivage gauche-droite comme celle d'une identité qui est revendiquée par Ségolène Royal. Je suis de gauche, c'est une identité. Et donc cette identité suppose une constance dans les choix politiques, parce que ça renvoie vraiment à son être social. Et il oppose cette identité naturellement à une vision, je dirais, stratégique ou stratégiste. C'est-à-dire, elle n'est pas réellement... de gauche, mais elle a déclaré être de gauche parce qu'elle avait intérêt à le faire au moment où s'est posée pour elle, c'est-à-dire à l'ENA, la question de savoir vers quel camp elle allait s'orienter. Et à l'époque où elle était à l'ENA, il valait mieux se dire de gauche que de droite, la gauche étant au pouvoir, semble-t-il. Voilà, donc c'est en cela que le passage qui vient de passer est intéressant, parce qu'on a là différents rapports au clivage. On peut soit considérer que c'est une identité, soit considérer finalement que c'est juste un intérêt tactique ou stratégique qui structure finalement les prises de position des différents hommes politiques. Naturellement, si on parle d'une vision stratégique, cela suppose, au contraire de l'identité, de l'inconstance. Et ça explique naturellement que les hommes politiques changent, sans se rendre compte parfois, de position à l'égard de tel ou tel problème politique ou économique quand ils y sont confrontés.
Donc les acteurs, en réalité, utilisent ce clivage droite-gauche comme un outil qui vont activer ou réactiver, mais sans être dans une mesure absolue de ce que pourrait être droite et gauche. Les positions évoluent, mais c'est un outil.
Voilà. C'est-à-dire, tout simplement, il y a des usages présents d'une tradition, de ressources que leur accorde la tradition, des références, des points de vue sur tel ou tel problème. Et naturellement, cette tradition-là est en permanence retravaillée par le présent. On sélectionne ce qui est intéressant et on élimine, on fait disparaître des aspects de la tradition qui sont moins importants pour les enjeux présents dans lesquels les hommes politiques sont pris.
Christophe Ledigueul, vous montrez dans votre livre que la critique, elle existe, du clivage droite-gauche, s'accompagne aussi d'une critique de la professionnalisation politique. Donc quand on va critiquer ce spectre ou l'existence de ce clivage droite-gauche, pourquoi est-ce que ça s'accompagne aussi d'une critique de la professionnalisation? Qu'est-ce que ça vient faire là, la professionnalisation politique?
Alors, tout simplement, c'est peut-être une question un peu plus compliquée, même si on peut y apporter une réponse simple, à savoir, on a affaire à deux groupes symboliques, la gauche et la droite. Les hommes qui s'inscrivent dans ces deux groupes symboliques ont finalement réussi à monopoliser sous la Ve République un ensemble de places et de fonctions dispensées par les institutions de la Ve République. Des postes de députés, de la haute administration, dans des mairies, au Sénat, etc. Donc ça, il y a un enjeu, c'est un enjeu, c'est qu'il y a un marché de postes et de places. Et le fait, grâce au scrutin majoritaire, de remporter les élections permet justement d'accéder à ces postes. Et il y a eu, en quelque sorte, l'organisation à partir de 1950, mais surtout 1962, d'un duopole entre la gauche et la droite, empêchant finalement d'autres hommes politiques se revendiquant d'autres traditions, d'autres camps, ça peut être l'extrême gauche, ça peut être l'extrême, etc., d'accéder à une part du marché plus importante. En même temps qu'il y a ce monopole s'est constitué, on a observé naturellement un allongement des carrières politiques, puisqu'il y a une stabilité dans l'occupation des fonctions grâce à ce monopole. Et donc ces hommes politiques qui occupent, depuis qu'ils sont jeunes jusqu'à quasiment leur retraite, ces places et ces fonctions, eh bien, se sont tout simplement professionnalisés. Une accentuation de la concurrence et l'exercice du monopole favorise la professionnalisation de ces hommes politiques. Donc naturellement, gauche et droite et professionnalisation activité sont devenus, pas conceptuels, mais assez liés. Donc quand on conteste l'existence du clivage gauche-droite, on conteste également ce qu'a fait Emmanuel Macron, dans cette professionnalisation de la politique qui empêche finalement un renouvellement du personnel politique et qui empêche également l'accès à ces fonctions d'acteurs, d'agents issus de ce qu'on peut appeler la société civile.
Alors justement, je voudrais qu'on en vienne à Emmanuel Macron pour terminer l'émission, puisque votre livre lui aussi se termine sur la prise du pouvoir par Emmanuel Macron et sa victoire à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait là, Christophe Ledigueul, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il profite de l'effritement des différences, en tout cas c'est ce qu'on dit, de l'effritement des différences entre droite et gauche? Il a réussi à soit à se débarrasser de cet outil, soit à le dépasser. Comment vous lisez le positionnement d'Emmanuel Macron?
En fait, il a profité de deux crises. On peut dire trois, mais je vais résumer à deux crises pour ne pas occuper le micro trop longtemps. La première crise dont il a profité, c'est la crise de ce duopole politique. Plus il y a, on va dire, professionnel politique, il y a monopolisation des fonctions. On a observé également un renforcement de la logique présidentielle depuis 1962. En même temps que ce renforcement, on a observé un troisième phénomène qui est la synchronisation du temps présidentiel avec le temps législatif. Et une dépolitisation, c'est en même temps une dépolitisation des camps, qui s'est traduite dans les programmes politiques par une dédifférenciation de l'offre politique.
Donc l'offre politique se ressemble
de plus en plus.
Dans ce qu'elle est proposée à droite et à gauche.
Voilà. Et donc il y a cette conviction, à tort ou à raison, chez les électeurs, que de plus en plus les programmes de la gauche se ressemblent. Donc on aurait une fausse alternance entre la gauche et la droite, et finalement toujours les mêmes visages, toujours les mêmes programmes.
Professionnels de la politique.
Tout à fait. Et la seule, peut-être la seule différence qui existerait encore relèverait finalement des sensibilités culturelles et je dirais des mœurs. Voilà, le mariage pour tous ou le Pax, etc., qui opposerait encore gauche à droite. Mais c'est ce sentiment finalement d'avoir toujours la même politique, quels que soient les camps, qui a provoqué en quelque sorte une crise de la croyance politique. Voilà, on ne croit plus aux hommes politiques. Ça fait 30 ans qu'on est en crise, ça fait 30 ans qu'on a les mêmes personnels politiques, ça fait 30 ans qu'on a les mêmes politiques. Peut-être serait-il temps d'en avoir d'autres politiques. C'est du moins ce qui se dit. Je n'ai pas dit que j'y crois. Mmh. Et en deuxième, peut-être dernière crise, c'est une crise de l'efficacité politique. Voilà, on a cette impression, à tort ou à raison, que le pays est subordonné à la politique européenne. Donc il y a une perte de souveraineté politique. Et d'un autre côté, il y a aussi cette idée qu'on entend quand on va dans les cafés, que finalement les politiques n'ont plus vraiment de pouvoir, que ce sont les acteurs économiques, les multinationales qui décideraient tout. Et finalement, nos hommes politiques ne seraient plus que des relais des intérêts économiques. Et donc les électeurs n'en auraient plus pour leur vote ou pour leur argent.
Et donc Emmanuel Macron profite de cette rupture de confiance ou lassitude.
Emmanuel Macron a profité de cette double crise en proposant un programme qui propose justement un renouvellement de la politique. Alors il a pour lui quelques arguments. Notamment, ça n'a jamais été élu. Donc, il peut jouer, on va dire, à l'extérieur. Et pourtant, il possède lui aussi un certain nombre de propriétés, de capitaux, qui font qu'il appartient également au Sérail. Il a fait Sciences Po, il était Henri IV, il est énarque, il était ministre, il était banquier. Mais malgré cela, il est parvenu à conquérir le pouvoir. Et sa campagne, si on observe bien sa campagne, a consisté à jouer en deux temps. Dans un premier temps, il possédait un capital médiatique. Il a fallu qu'il transforme ce capital médiatique en capital militant, c'est-à-dire se doter. Il n'y avait rien. Donc il devait se doter d'un parti ou d'un mouvement, de militants. Et ça, c'était, on va dire, le premier temps de sa campagne. Et dans un second temps, il a fallu convertir ce capital militant fraîchement acquis en vote et en voix. Alors, naturellement, ça rendait, on va dire, quand on était en septembre ou octobre 2016, novembre 2016, quand il a présenté sa candidature, peu de commentateurs auraient fait le pari d'une victoire d'Emmanuel Macron. Moi-même, au début, j'avoue que j'étais sceptique, je n'étais pas le seul dans la profession. Et il a réussi en un an, justement, à faire cette révolution symbolique, à réussir à capitaliser, on va dire, des militants et à transformer ce capital militant en voix.
Ça, c'est quand même relativement nouveau. On va terminer par là. Sous la Ve République, ce n'est pas la trajectoire habituelle.
Ce n'est pas la trajectoire habituelle. C'est sous la Ve République, naturellement, le temps présidentiel, le temps de conquête de la présidence est un temps long. On y passe des décennies. On commence jeune. Et puis finalement, les cheveux...
plusieurs fois.
On subit toujours des échecs. Les cheveux blanchissent. Et donc finalement, à la fin de sa vie, si possible, on atteint enfin le Graal. Et d'un seul coup, Emmanuel Macron, moins d'un an, a réussi là où tout le monde avait échoué. Alors naturellement, comment expliquer cette réussite ? On l'explique souvent par le charisme. Emmanuel Macron serait doté d'un charisme extraordinaire. Et dans l'ouvrage que je publie, j'essaie de revenir sur ce charisme et d'expliquer finalement, non, ce n'est pas le charisme qui explique sa réussite. Et vous le découvrirez peut-être dans le bouquin si vous l'achetez.
C'est ce que j'allais dire, on ne peut pas tout restituer. Merci beaucoup Christophe Le Digol, mais il y a effectivement tout un dernier chapitre critique mais analytique sur les députés, l'entourage d'Emmanuel Macron et les figures issues notamment du Parti Socialiste qui l'ont accompagné. Je vous remercie chaleureusement Christophe Le Digol
pour
votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gauche-droite, la fin d'un clivage, sociologie d'une révolution symbolique, édition Le Bordelot en 2018. Merci à Arnaud à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.